de route.
RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous, la rétrospective de votre actualité de la semaine, évidemment encore très occupée par les choses politiques. Il s'agit pour le nouveau chef de l'État de se mettre en marche, c'est le cas de le dire, en mouvement, avec cette semaine la nomination de son Premier ministre, comme lui un énarque, comme lui aligné sur l'atlantisme. Hein. Ils ont tous les deux été dans les promotions de la French American Foundation, les Young Leaders. Il est jeune, 46 ans, Édouard Philippe, et comme lui, donc, il dépasse les clivages droite-gauche, puisque Édouard Philippe vient du parti Les Républicains, le parti d'en face, et le gouvernement a été fabriqué à cette image, avec des prises de guerre issues des Républicains, placées d'ailleurs pour les deux ministres Les Républicains à l'économie. Stratégiquement, c'est très réussi. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, Gérald Darmanin au compte public, ça permet d'anesthésier la droite. Emmanuel Macron réussirait à couper l'herbe sous le pied de la droite libérale, la privant de son principal angle d'attaque, l'économie. Dans la perspective des élections législatives, c'était le bon coup à jouer. Chez les Républicains, la riposte n'a pas tardé. On considère que tous ceux qui ont rejoint Emmanuel Macron sont désormais partis. De même, il n'y a même pas à les exclure du parti. Et ils auront en face d'eux aux élections législatives des candidats Les Républicains, qui défendront le projet Les Républicains, puisque les membres du gouvernement, d'où qu'ils viennent, devront soutenir les candidats En Marche. L'annonce du gouvernement a été longue à venir, elle a été retardée de 24 heures, elle a eu lieu finalement seulement mercredi, puisque on voulait passer en revue les comptes, les déclarations d'impôts, vérifier que les ministres, les futurs ministres, n'avaient pas de casserole pour éviter de se retrouver avec des tricheurs fiscaux comme Cahuzac ou Thomas Thévenoud. Ça n'empêche pas toutefois les polémiques de naître, puisque on s'amuse tous sur Twitter, sur Facebook, sur Internet, à ressortir les vieilles déclarations d'il y a quelques mois ou d'il y a quelques années, où ce ministre-ci ou cette ministre-là prenait position contre Emmanuel Macron, par exemple. Mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, tout le monde travaille ensemble. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dû se dire au gouvernement. Reste que certains ministres ont des positions qu'il faudra clarifier, comme Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Elle est pour le port du voile islamique à l'école. Pour Malek Bouti, député socialiste de l'Essonne, ancien président de SOS Racisme, si elle maintient ses positions sur la laïcité, elle ne tiendra pas longtemps. Autre sujet qui fâche, qu'il va falloir clarifier, c'est la question du nucléaire ou la question de l'aéroport du Grand Ouest, Notre-Dame-des-Landes. Comment Nicolas Hulot embrassera-t-il ces sujets qui fâchent? Eh bien, c'est à suivre dans les prochaines semaines. Alors, les montées des marches des ministères, c'était cette semaine. La montée des marches du Festival de Cannes aussi, ça a été cette semaine, sous haute surveillance à cause du risque terroriste. Une éclaircie toutefois, une bonne augure pour le nouveau gouvernement, c'est le taux de chômage qui est passé sous la barre des 10% en France au premier trimestre 2017, avec 9,6% de chômeurs. Cela dit, Emmanuel Macron ne bénéficie pas d'un état de grâce, avec une première cote de confiance inférieure à celle de François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac. Au même moment, un sondage Elabe pour les Échos révèle qu'il a seulement 45% de cote de confiance. Voilà pour cette rétrospective, merci de nous avoir choisi. Passez un excellent week-end avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
RVE 103.7, on va tout de suite parler de la météo de ce dimanche avec un ciel instable, de rares averses, mais des averses quand même, de rares éclaircies, mais quelques éclaircies quand même. Les températures ce matin, environ 10 à 11 degrés, on aura dans la journée entre 18 et 20 degrés avec retour lundi des averses orageuses.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Tribune Sport, plus que jamais au cœur de l'actualité ce matin, puisqu'on va parler dans quelques minutes de la grande réunion pronom qui va se dérouler toute cette journée à l'hippodrome de Rambouillet avec notre pronostiqueur hippique maison José, que je salue. Ça va José, qui a laissé le ballon rond ce matin pour les chevaux. Ça va José, belle journée qui se profile.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, une belle journée qui s'annonce, très ensoleillée, et puis encore du beau monde sur l'hippodrome de Rambouillet pour cette énième réunion.
Voilà, puis ça sent bon le Tour de France. On aura la 12e édition de la Sud Yvelines, Rambouillet territoire. On aura tout à l'heure Olivier Bourdin pour nous faire un petit point sur les deux premières étapes qui se sont déroulées donc hier. On aura un contre-la-montre par équipe ce matin, et puis cet après-midi, la grande étape en ligne entre Poigny-la-Forêt et Saint-Léger en Yvelines, on aura un petit point avec Olivier Bourdin aux alentours de 10h10, 10h15. Et puis, ça a été l'événement de la semaine. Le comité d'évaluation du CEO est venu pendant 3 jours sur Paris. Alors, on aura un de ses consultants, Kevin Bernardi, tout à l'heure au téléphone. Et Arnaud va compléter ce dossier. Arnaud, que je salue, ça va, Arnaud? Parce qu'on va nous parler un peu de tout. On va présenter un peu toutes les infrastructures qui accueilleront, en principe, hein, si on est choisi à Lima, donc en 2024, qui accueilleront donc ces Jeux Olympiques.
Bonjour Philippe. Bah écoutez, cette semaine, le projet Paris 2024 a pris une autre tournure entre la visite du CIO à Paris et la nomination d'une nouvelle ministre des Sports qui aura à cœur de porter.
Et quel ministre
La guêpe Laura Flessel, donc qui aura comme mission principale dans les prochaines semaines de faire nominer Paris pour les Jeux Olympiques de 2024. Donc effectivement, ça a pris une nouvelle tournure cette semaine.
Oui, en plus, le hasard du calendrier a fait que le comité d'évaluation est venu alors qu'on était entre période de transition, passation de pouvoir entre deux présidents, un gouvernement qui était donc en gestation. On parlera de tout ça avec Kevin Bernardi tout à l'heure. Alors, José, je l'ai dit, aujourd'hui, il y a beaucoup d'événements dans notre région. Hein, il y a la Sud Yvelines cycliste, on en reparlera, on est radio partenaire sur cet événement cycliste qui sent bon le Tour de France. Et puis, José, il y a la 4e réunion de la saison à l'hippodrome de Rambouillet, mais quelle réunion? C'est la plus importante, c'est la réunion podium. Ça veut dire qu'on va parier dans toute la France sur ces courses à Rambouillet.
C'est ça, il y aura donc des couplets, des simples, des multi, des 2 sur 4, un peu comme vous pouvez faire à votre point PMU. C'est-à-dire que vous allez pouvoir parier sur les 7 courses qui vont se dérouler sur l'hippodrome de Rambouillet, dans votre point PMU habituel ou sur l'hippodrome, puisque vous pouvez venir à l'hippodrome. Ça sera une superbe journée, très ensoleillée.
Oui, alors les portes vont s'ouvrir un tout petit peu plus tôt. Je crois que c'est 12h05 la première course. Hein.
La première course a lieu à 12h05, mais les opérations débuteront à 11h45, donc soyez à l'heure pour commencer vos paris vers 11h45, donc et la première course qui partira à 12h05.
Mmh. Et puis cette course, c'est un peu moins que d'habitude, hein. Il y en a 9 en général dans les réunions.
D'habitude, il y en a 9. Il y en a un peu pour tous les goûts. Ouais. Il y a des amateurs, il y a des professionnels, et donc on s'est penché un petit peu sur les pronos, on va essayer de donner quelques gagnants. Je vous rappelle quand même que je suis quand même fier parce que la dernière fois j'ai quand même réussi à donner des gagnants à 31 contre 1, donc c'est bien. Je vais essayer de faire aussi bien cette semaine.
Non mais je sais ce qu'il fait, José, il passe ses journées à visionner des cassettes avec
pas
Boris
tout à fait, mais bon, disons que je suis un peu moins passionné que Boris, mais bon, je m'y intéresse quand même un petit peu. Donc on va commencer par la première course qui est dans le prix d'NM pour apprenti et la jockey, donc qui se déroule sur 2800 mètres pour 5 ans. Donc c'est des chevaux n'ayant pas gagné 84 000 euros et un recul à 43 000 euros. Donc j'ai choisi en premier le 7 Captain Bleu, qui est justement à la limite du recul. Chistera le 12, Coquine du Manoir le 3 et Campo Jocelyn le 9. Donc je vous rappelle, 16 partants. Les opérations pour cette course, 12h05. La course part à 12h05 donc. Dans la deuxième course, le prix Sol Progrès. Donc 19 000 euros de gain, départ à 12h35 sur 2000 mètres, et c'est pour poulain entier et hongre de 3 ans. Donc j'ai choisi le 8 Emblème Burois avec François Le Canu qui sera au sulky, le 14 Écart de la Rouvre, le 3 Eratonium avec un professionnel de Vincennes, Étienne Dubois, et le 7 État Civil, toujours avec un professionnel de Vincennes, Nicolas Roussel. Nous passons à la troisième course, le prix du Piccadilly's Pub, départ 13h05 pour amateurs, donc sur 2800 mètres. J'ai choisi le 4, Verdi du Châtelet, le 9, Arme Blanche, le 13, Un Gamin d'Hanover et le 11, Vega Franca. Ensuite, la quatrième course, le prix auto-école du Petit Parc sur 2000 mètres pour femelles de 3 ans. J'ai choisi donc le 11, Engadine, drivé par Pierre Lévesque. Le 6, Escorte de Vry. Le 1, Élégante de Gite, avec Pierre Vercruiz. Mmh. Et le 14, Élégante Express, avec Franck Nivard.
Célèbre Franck Nivard.
Célèbre Franck Nivard, qui est un champion de Vincennes, tout comme Jean-Michel Bazir. Nous passons à la cinquième, qui est le prix Albert Rayon. 2800 mètres, 18 partants, départ à 14h05. Pour chevaux entiers et hongres. Donc, j'ai choisi le 13, Dream des Rioux, par Franck Ouvry. Le 3, défi de Belande avec Alexis Huro. Le 14, Darius de Nappe avec Théo Duval-Estaing. Et le 5, Désir Dujuil.
C'est Thierry Duval-Estaing qui avait gagné le prix Hervé il y a quelques...
Là, c'est Théo.
Ah, c'est Théo, c'est son fils,
c'est
alors.
Théo.
D'accord,
voilà.
Ok, autant pour moi.
L'entraîneur, c'est bien Thierry Duval-Estaing, mais là, c'est Théo Duval-Estaing qui va être au sulky.
Donc 13, 3, 14.
13, 3, 14 et le 5, Désiré Dujuil. Ensuite, nous passons à la sixième, le prix Peugeot Nova Automobile, 2800 mètres, 18 partants. Départ à 14h35. Donc, j'ai choisi le numéro 17, Duchesse de Rome. Le 12, Diva de Nganda. Le 3, Diva GD, avec François Le Canu encore. Dynamique Dufan. Ensuite,
Donc, un numéro 17, 12, 3 et
17, 12, 3 et 9.
D'accord.
Bon. Ensuite, nous passons à la dernière course qui aura lieu dont le départ sera à 15h10. Donc, ça sera la dernière course sur l'hippodrome de Rambouillet. Donc, le prix de l'éco-républicain. Ah. 2800 mètres, 18 partants, avec un prix à 32 000 euros pour chevaux de 6 à 10 ans. Mm-hmm. Donc, j'ai choisi le 10, Viking Fromento, drivé par Pierre Lévesque. Le 4, Val de Loire, par Magliano. Le 9, Athos de Beaufort, encore avec Alexis Huro, qui est un ancien apprenti de Monsieur Bourlier. Le 3, Angle d'Or, avec François Le Canu. Donc, il reste sur 7 victoires d'affilée, ce 3, Angle d'Or. Et la dernière course, ça s'est un petit peu mal passé, puisqu'il a été distancé. Mais sinon, il reste sur 7 victoires d'affilée. Et donc, je pense qu'il devrait être dans les 3 premiers. Et voilà, donc, pour aujourd'hui, nos pronostics sur l'hippodrome de Rambouillet. Venez nombreux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une superbe journée et matinée ensoleillée. Et donc, venez... pour essayer d'avoir le maximum de gagnants.
Très bien, on reparle des chevaux tout à l'heure, hein. On descend de cheval, on monte sur notre bicyclette. Je crois qu'on a Olivier Bourdin, je sais qu'il est très occupé. Olivier, bonjour. Alors, est-ce qu'Olivier m'entend ? Apparemment non, il a dû peut-être raccrocher, donc on va nous... Olivier ? Non, donc il va rappeler Victor, hein. Il va rappeler Olivier Bourdin. Est-ce que cette fois-ci ça marche ? Olivier, bonjour. Non, bah, il va falloir voir ça à la régie, donc on repart sur les chevaux. Il va y avoir beaucoup de monde. Il y aura des festivités prévues.
Je crois qu'il y aura des festivités comme il y a d'habitude sur l'hippodrome de Rambouillet. Donc il y aura des jeux pour les enfants et puis donc les parents pendant que les enfants s'amusent peuvent venir s'amuser en pariant puis en mangeant un petit morceau puisque le restaurant au trotteur de la Villeneuve sur l'hippodrome de Rambouillet sera ouvert et donc vous pourrez vous restaurer et aussi vous amuser en même temps.
José, c'est une belle reconnaissance quand même, hein, que de faire donc une journée premium. On sait que ça, c'est le cas depuis quelques années. C'est une belle reconnaissance pour un hippodrome.
Oui, surtout que ça attire pas mal de professionnels, comme je l'ai rappelé déjà la dernière fois, puis en début d'émission, que tels des professionnels comme Monsieur Duval-Estaing, Franck Nivard, la semaine dernière il y avait Éric Raffin, Jean-Michel Bazir a déjà eu l'occasion, sur cette réunion-là, il n'est pas là, mais il a déjà eu l'occasion de venir sur cet hippodrome de Rambouillet, qui est quand même maintenant à ses côtés en France et qui est assez connu, et dont la pelouse, je vous rappelle que c'est une pelouse en herbe, et qui est magnifiquement entretenu et qui se trouve justement au cœur de la forêt de Rambouillet. Et donc, venez nombreux passer une belle matinée, une belle journée sur cet hippodrome de Rambouillet, tout en vous amusant et en profitant du temps et de la vie.
Alors, on va faire un petit essai. Est-ce que cette fois-ci, on a Olivier sur la route du contre-la-montre entre Poigny-la-Forêt, enfin entre Rambouillet, Gazeran et Bêcherot. Olivier ? Non, il y a des petits problèmes, il va vraiment falloir régler ça parce qu'on peut pas continuer comme ça. Voilà, donc là il va falloir se mettre d'accord avec Olivier Bourdin qu'on n'arrive pas donc à avoir au téléphone. On va donc continuer. José, on va quand même rappeler que c'est la quatrième réunion de la saison sur l'hippodrome de Rambouillet. Donc comment s'est passé le bilan des premières deux, trois premières réunions? On a eu le prix Hervé lors de la première réunion. On sait qu'il y avait deux dimanches électoraux qui tombaient pendant les courses à l'hippodrome.
Il y a eu quand même pas mal de monde. J'ai des amis qui ont été. J'avais pas été personnellement, mais j'ai des amis qui ont été, qui m'ont dit que c'était pas vraiment la grande foule comme on pourrait le voir à Vincennes, puisque c'est pas du tout le même hippodrome. Mais il y avait quand même du monde et au niveau des entrées, c'était à peu près correct. C'était une journée au niveau comme toutes les autres journées. Mais je crois que sur l'hippodrome de Rambouillet, ça commence à monter en puissance. Je vous rappelle que la prochaine réunion quand même aura le.
Oui. Ça sera dimanche 4 juin.
4 juin.
Ça sera 2017. Dimanche de Pentecôte.
C'est ça, voilà. Tout à fait. Donc, je pense que, comme j'étais en train de dire, l'hippodrome de Rambouillet monte en puissance et venez donc nombreux. C'est un hippodrome qui commence vraiment à avoir la cote et qui attire vraiment des professionnels du monde épisme. Mmh. Et c'est très bien. Venez vous amuser.
Alors, on parlait de Franck Nivard, on parlait de Jean-Michel Bazir. Oui. Ce sont deux grands drivers qui viennent assez souvent. Thierry Duval d'Estaing, oui, qui viennent assez souvent à l'hippodrome de Rambouillet.
On peut rappeler que Jean-Michel Bazir est quand même numéro un, puisqu'il a eu je ne sais combien de sulky d'or. Et c'est un garçon qui, quand même, a eu un AVC il y a quelques années, il y a 3-4 ans.
Souviens, ouais.
Et bon, c'est très bien, il s'en est remis. Et puis, il est revenu à son métier. Il le fait intelligemment et très bien. Et il est revenu au haut niveau et il faut lui tirer un grand coup de chapeau parce que c'est un grand professionnel et d'une gentillesse extrême.
Et puis on a le trophée vert aussi jadis, hein, qui a servi de course support à l'hippodrome de Rambouillet.
Qui a été gagné l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus exactement, mais par Franck Nivard, j'étais présent. Et c'est vrai que c'est un hippodrome qui attire vraiment du beau monde. Hein. On a eu, je ne sais pas, il y a 2 ans à peu près, Reddy Cash qui était venu en présentation, donc un très grand champion du trot qui était venu sur l'hippodrome de Rambouillet. Donc vous voyez, on a des beaux chevaux. Et du beau monde, des bons professionnels.
Et puis on va rappeler aussi que l'hippodrome de Rambouillet, il fonctionne en parallèle avec l'hippodrome de Chartres, ce qui est important.
Oui, Monsieur Trudeau, qui est directeur de l'hippodrome de Chartres, contribue à ce que l'hippodrome de Rambouillet fonctionne bien, comme son hippodrome de Chartres d'ailleurs, qui est aussi très coté en province. Et voilà.
Très bien, merci en tout cas donc José. Donc on va rappeler les pronos, ensuite on lancera la pub et la musique, ça va permettre donc à Victor de se mettre au point avec Olivier Bourdin pour le direct concernant donc la Sud Yvelines. Voilà. Donc dans la première, c'est le 7, donc, le 12. Oui. Le 3 et le 9. Dans la deuxième, donc le 8, le 14, le 3 et le 7. Troisième course, le 4, le 9, le 13 et le 11. Quatrième course, donc le 11, le 6, le 1 et le 14. Cinquième course, le 13, le 3, le 14 et le 5. Sixième course, le 17, le 12, le 3 et le 9. Et la septième course, le 10, le 4, le 9 et le 3. Voilà. Ça, c'est pour les pronos. Cette fois-ci, on peut envoyer la page de pub et la pause musicale. Et ensuite, on espère, on va retrouver Olivier Bourdin, puis un peu plus tard, donc Kevin Bernardi qui nous parlera de ce qui s'est passé durant 3 jours à Paris pour les Jeux Olympiques et la visite de la commission d'évaluation.
Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir, le midi du lundi au vendredi, le menu express entrée, plat ou plat dessert à 15 euros. Le menu Amaris, entrée, plat, dessert à 19 euros. Le soir, du lundi au vendredi, son menu gourmand à 25 euros. Le restaurant Amaris, c'est une carte style brasserie avec ses plats traditionnels composés avec des produits frais du jour. Pour un moment privilégié, professionnel, entre amis ou en famille, choisissez le restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Dis donc, tu as quelque chose de prévu mardi ?
Ben non, pourquoi ?
Mardi, c'est mon jour shopping au Bel Air.
Ah bon ?
Oui, tous les mardis, tu peux gagner le remboursement de tes achats dans les boutiques du centre commercial et au Carrefour.
Pas mal du tout, ça. Ça vaut la peine de changer le jour de ses courses.
Et comment ça marche ?
Ben viens, je t'emmène et je t'expliquerai en route.
De gagnant chaque mardi sur tirage au sort. Détails de l'opération dans votre centre commercial Bel Air, route nationale 10, Rambouillet.
Appelle au secours, ils savent qu'un sourd qu'on n'est pas les plus malheureux. Oh, mais quand dans l'amour tout s'effondre, toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu.
Avec RVE.
Voilà, alors il y a une autre épreuve, tiens, importante de cheval, José, c'est organisé par Rambouillet Challenge Amateur, hein, c'est au Hara National des Brevières. Il y avait jadis, il y a quelques années, l'enduro cheval, et puis qui se déroulait à l'hippodrome de Rambouillet. Puis cette épreuve, elle s'est un peu délocalisée, d'abord à la Boissière École l'année dernière, puis maintenant au Hara National des Brevières. Donc hier samedi, il y a eu des courses nationales d'endurance sur distance courte, vous allez voir, 80 km, 120 km, 2 fois 70 et 140, c'est pourtant considéré comme des distances courtes. Et puis c'était des épreuves AMA pour des professionnels. Et puis aujourd'hui, il y a des épreuves de vitesse imposée pour les amateurs sur 20, 30, 40, 60, 80 km. Et il y aura 10 km qu'on pourra aussi faire en poney ou en cheval. Donc écoutez, vous avez la possibilité d'aller suivre ces épreuves. Et puis l'association Enduro Cheval, qui est dorénavant présidée par Jean-Pierre Duval, elle organise aussi ce week-end, à cette occasion, un grand dépôt-vente au Hara des Brevières. C'est jusqu'à ce soir 18h et c'est au château de Neuville. Voilà, donc un beau week-end pour le sport équestre et le cheval dans notre région. Alors, on va refaire une autre tentative avec Olivier Bourdin. Est-ce qu'on a Olivier au téléphone ?
Est-ce que tu m'entends ?
Ah, ben voilà, tout arrive, Olivier. Ça y est, tout arrive. Hein ? Voilà, alors, donc, on en est où sur ce contre-la-montre par équipe, là ?
Ben, ça se finit, là, les deux équipes sont engagées. Il ne reste plus que deux équipes arrivées, là, dans le contre-la-montre. Là, en plus, on a la chance, il fait super beau. Donc, voilà, ça se finit pour ce matin.
Alors, on sait, Olivier, que souvent le contre-la-montre peut être décisif, hein, parce que bien qu'on ait quatre étapes sur cette Sud Yvelines, très souvent il y a des écarts infimes, et puis les secondes, les minutes, les quelques secondes perdues et les quelques minutes perdues au contre-la-montre par équipe font souvent la différence en fin d'épreuve.
Tout à fait, ça fait la différence. Et puis on arrive à la troisième étape, ça commence, les coureurs commencent à être un peu fatigués, donc voilà, c'est. C'est la solidarité qui fait que on avait gagné les 5-10 secondes maximum pour revenir, pour garder le maillot pour la fin de l'épreuve.
Et puis on va rappeler que le contre-la-montre par équipe, hein, ça démontre aussi que le vélo, c'est aussi un sport collectif.
Tout à fait, il y a une homogénéité de les passages, bien rester à l'abri, pas trop donner, être régulier dans son effort pour pas que le camarade derrière qui en prenne plus et puis qui expose d'un seul coup à 5 km de l'arrivée.
On va rappeler son 5 et le classement se fait sur le 5e ?
Non, sur le 3e.
Le classement c'est sur le 3e homme. D'accord.
3e homme, il faut qu'ils arrivent à 3. Donc c'est pour ça que souvent, il y a le celui qui est plus faible, il part au début, puis après il ralentit, sur la fin, il lâche un peu, quoi.
Alors Olivier, hier il y a eu un prologue entre Longvilliers et Rochefort en Yvelines, hein, sur 3,6 km. Hier l'étape donc en ligne Saint-Martin-de-Bretancourt en passant par Sainte-Mème. Ça s'est passé comment ?
Ça s'est passé, on a eu un petit incident de course, les coureurs qui sont percutés à un signaleur, malheureusement le signaleur s'est retrouvé à l'hôpital avec une petite commotion et puis 2-3 chutes. Mais bon, là on a des bonnes nouvelles du signaleur, il va être resté 48 heures en observation. Sinon, ça s'est bien passé. Une course assez dure à Saint-Martin-de-Bretancourt avec une côte. Donc là, on a vu justement les jeunes, les juniors et les espoirs faire valoir leur puissance, quoi, leur agilité et puis leur souplesse à la montée. Donc ça a été animé tout le long de la course. Et voilà, de très bons résultats et une victoire pour les premières. Un espoir du VC Temple qui a 21 ans, qui a réussi à gagner avec 20 secondes d'avance.
Ouais, donc ça veut dire que les écarts sont infimes et que donc la quatrième étape de cet après-midi qui vont mener les coureurs de Poigny-la-Forêt à Saint-Léger, hein, et puis ensuite avec l'arrivée sur les Brévières, ça va être une étape capitale.
Ah, tout à fait, et puis en plus voilà, il va faire beau, donc les coureurs ont encore envie d'en donner, de s'animer. Donc sinon c'est pas encore joué, c'est pas encore gagné, il reste cette étape cet après-midi.
Très bien, merci Olivier, à tout à l'heure donc pour suivre la fin de cette Sud-Yvelines.
Ok.
Merci.
À
Olivier Bourdin. C'est l'événement aussi, je l'ai dit, sportif de la semaine. On a même les dossards à l'effigie d'Hervé. Donc chaque concurrence sur ce qui est quand même le grand rendez-vous pour la communauté de communes en matière de sport cycliste dans notre région. Donc cet après-midi, quatrième étape, Poigny-la-Forêt, Saint-Léger, en Yvelines, les Bravières. Départ à partir de 14h15. Naturellement, on va vous ramener tout plein d'interviews et vous aurez tous les résultats et les interviews dans le Tribune Sport de la semaine prochaine. Et on va remercier Olivier Bourdin pour sa patience. Voilà. Alors Arnaud, on l'a dit, en attendant donc de joindre maintenant notre ami Kevin Bernardi, qui lui se trouve sur Narbonne. Donc ça y est, le comité d'évaluation est venu pendant 3 jours. Alors je demanderai tout à l'heure à Kevin comment ça s'est passé, mais c'est vrai que le hasard a fait qu'en plus, ils sont venus la veille de la passation de pouvoir entre le président Hollande et le président Macron.
Oui, ils sont venus
il n'y avait pas de gouvernement, alors,
au donc... moment de la passation de pouvoir. Donc à savoir que les membres du CIO arrivaient tout juste de Los Angeles où ils avaient évalué la candidature adverse.
Ils ont été très impressionnés, paraît-il, alors on posera la question.
Ils ont été très impressionnés par Los Angeles, effectivement. Alors après, selon énormément de rumeurs, ce serait très positif. Mmh. Et il y a autre chose à prendre en compte. On parle depuis plusieurs mois d'une double attribution des Jeux Olympiques. Donc visiblement, d'après ce qui se trame au CIO, Paris aurait les Jeux Olympiques, quoi qu'il arrive, soit en 2024, si c'est la candidature qu'il remporte face à Los Angeles, ou en 2028. Donc c'est la première fois que ça arrive pour ce qui concerne les Jeux Olympiques d'été, une double attribution à ce niveau-là. Et visiblement, oui, ça serait positif, et on parle même d'une victoire pour 2024. Donc à savoir que Paris avait échoué plusieurs fois ces dernières années. Ça ferait du bien au sport français d'enfin avoir les Jeux Olympiques. À savoir que ça ferait un beau clin d'œil, à savoir que les derniers Jeux Olympiques d'été organisés en France étaient en 1924. Donc ça nous ferait un centenaire et ça serait intéressant pour le sport français d'avoir 2 semaines olympiques et pour l'emploi, pour le logement, pour énormément de niveaux. Ça ferait peut-être beaucoup de bien à l'économie française, comme ça l'avait fait à Londres il y a 4 ans.
Oui, et c'est fédérateur. Bah justement, tiens, on va en parler avec celui qui est au téléphone, c'est Kevin Bernardi. Est-ce que Kevin m'entend ?
Oui, tout à fait.
Bonjour Kevin, merci en tout cas. Alors vous avez suivi naturellement, comme vous le faites régulièrement, donc le CIO, lors de ces 3 jours à Paris. Très brièvement, ça s'est passé comment, d'une façon générale ?
Alors, d'une façon générale, assez calibré et assez policé, on va dire, puisque la commission d'évaluation inspecte les villes de manière tout à fait policée, dans le sens où elle distribue les bons points, mais en même temps, elle ne donne pas les éléments de faiblesse qui pourraient être le cas. Même au niveau du rapport d'évaluation qui sera publié le 5 juillet prochain, on n'aura pas vraiment d'éléments déterminants quant au classement, on va dire, entre Paris et Los Angeles. Donc après, ça a surtout permis à la commission de voir in situ la qualité des sites, la capacité des sites franciliens à accueillir les Jeux Olympiques.
Alors, Kevin, on dit que l'impression a été bonne, et il vient tout droit de Los Angeles où l'impression a été aussi très bonne. Alors,
Tout à fait. C'est vrai qu'à Los Angeles, ça a été le même discours. Patrick Baumann, le président de la commission d'évaluation, a eu quasiment les mêmes mots au niveau de l'appréciation qu'il a fait avec ses collègues de la commission d'évaluation sur la capacité de Los Angeles à accueillir les Jeux, sur la qualité des infrastructures présentes sur place. Et ça a été, grosso modo, le même type de discours qui a été fait à Paris. Donc c'est une manière de saluer, évidemment, les deux villes qui sont les deux survivantes, si on peut dire, de la course pour 2024, puisqu'il faut se souvenir qu'on était parti sur 5 villes candidates au mois de septembre 2015 et on se retrouve avec uniquement 2 villes. Et c'est une situation pour le CIO qui est assez délicate, puisque depuis le milieu des années 1980, on n'avait pas connu un tel désamour, on va dire, au niveau des villes candidates.
Oui, alors on sait que bon, les deux, ça veut dire que les deux dossiers sont très bons, et on sait que, on en parlait en préambule de cette interview, qu'il est possible, hein, ça sera décidé le 9 juin, d'attribuer donc à Lima le 13 septembre et les JO de 2024 et les JO de 2028 du coup.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est ce qui se dessine depuis déjà quelques semaines. Les premières discussions ont d'ailleurs eu lieu lors de la convention Sport Accord qui a eu lieu au mois d'avril à Aarhus, au Danemark, là où le président du Comité international olympique, Thomas Barr, a rencontré la maire de Paris, Anne Hidalgo, le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, et a commencé à échanger avec eux sur l'idée d'une double attribution. Et c'est vrai que ce qui se dessine pour l'heure, ce serait 2024 pour Paris, 2028 pour Los Angeles. À ce niveau-là, rien n'est encore acté, mais si le principe de la double attribution est clairement défini le 9 juin prochain au cours de la réunion de la commission exécutive du CIO, à ce moment-là, il est certain que Paris aura soit l'une, soit l'autre des éditions.
Oui, mais enfin, Paris part pour avoir les Jeux avant tout en 2024. Si on avait les Jeux en 2028, on n'aurait pas un petit sentiment de compensation ?
En fait, que c'est ce qui pourrait se ressentir. Et c'est aussi l'objectif pour le CIO de donner l'impression d'attribuer deux éditions olympiques sans donner une édition qui serait un petit peu au rabais à l'une des deux villes candidates. Donc c'est que là aussi, tout va dépendre le discours que va adopter le CIO, que va adopter la commission d'évaluation, le groupe de travail qui a été mandaté pour justement ce principe-là de la double attribution. C'est que tout va être minutieusement calibré pour ne pas froisser l'une des deux villes candidates, puisqu'il est vrai que une seule des deux aura 2024. Il ne faudrait pas donner le sentiment justement que 2028 soit au final un lot de compensation. Donc certainement que le CIO à ce niveau-là adoptera une contribution financière plus conséquente pour 2028, peut-être aussi pour rassurer la ville qui obtiendra cette édition-là.
Alors vous, qui êtes dans le secret des dieux, hein, vous suivez tout ça de très près, vous en pensez quoi ? Vous pensez quand même que l'accord tient plutôt pour Paris pour 2024 ?
Alors c'est que c'est ce qui serait le plus logique, le plus adéquat. Donc après, le discours officiel, évidemment, est de dire Paris veut 2024 puisque les terrains, par exemple, pour le village olympique ne seraient pas disponibles en 2028. Ça, c'est un discours que Los Angeles aurait pu aussi adopter si elle avait pris la décision de construire un village olympique. Donc ça, c'est pas vraiment sur ça que la décision sera. Après, c'est qu'il y a le symbole du centenaire qui peut rentrer en ligne de compte, même si ce n'est pas le seul élément, le seul critère. Et on l'a vu d'ailleurs par le passé, quand par exemple Athènes avait candidaté pour les Jeux de 1996 pour dire on candidate pour organiser les Jeux du centenaire. Finalement, Athènes n'avait pas eu les Jeux, ça avait été Atlanta. Donc c'est que là, ça pourrait être une situation un petit peu similaire. Après, on voit une évolution dans le discours des deux villes candidates, et notamment de Los Angeles, où Los Angeles semble moins à cheval, on va dire, sur le principe de cette double attribution et sur le principe d'avoir uniquement 2024. Donc Los Angeles semble plus à même d'accepter 2028, et c'est peut-être d'ailleurs au final, au regard des dernières discussions qu'il y a pu y avoir, des dernières évolutions au niveau des candidatures qu'il y a pu y avoir, où on remarque aussi, en regardant du point de vue technique, une évolution plus accentuée, on va dire, du côté de Los Angeles, qui a, au cours des derniers mois, vu et revu à plusieurs reprises son dispositif, notamment quant à l'implantation des sites, ce que Paris a fait à une seule ou deux reprises, et encore, ça a été à la marge et au regard des conseils que les sportifs, que les fédérations internationales ont pu apporter. Los Angeles, il a fallu attendre plusieurs mois, et notamment le mois de janvier-février, pour avoir la configuration complète et surtout l'ensemble des sites prédéfinis, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc ça montre peut-être à ce niveau-là une petite faiblesse du côté de Los Angeles qui serait dès lors plus à même d'accepter 2028.
Oui, puis Kevin, on dit que le président Trump, il ne fait pas véritablement la promotion, hein, et il incite même à ne pas faire de sport, paraît-il.
Alors c'est vrai que l'élection de Donald Trump n'a pas été à l'avantage, on va dire, de Los Angeles. Ça n'a pas non plus été un inconvénient dans le sens où le modèle de gouvernance à l'américaine n'est pas le même que le modèle français. C'est-à-dire que quand on regarde au niveau de la gouvernance proposée par la candidature française, il y a évidemment la ville, la région, l'État qui financent, qui contribuent et qui garantissent l'organisation des Jeux. Pour Los Angeles, l'État est uniquement garant au niveau de la sécurité. Et c'est vrai que c'est un modèle qu'on retrouve aussi dans les précédentes organisations olympiques aux États-Unis, où c'est surtout le local, l'équivalent du régional qui contribue, qui garantit, surtout puisqu'après la contribution financière vient plus particulièrement du secteur privé. Donc c'est vrai qu'on est sur un modèle de gouvernance qui est différent et automatiquement les responsabilités ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément un désavantage pour Los Angeles d'avoir Donald Trump, même si évidemment quand on regarde, et notamment quand on regarde là le bilan de la visite de la commission d'évaluation, ce qui n'était pas prévu au départ, mais la commission d'évaluation a pu rencontrer le président Macron à Paris, ce qui n'était pas prévu, et c'est vrai que ça donne un léger avantage par rapport à Los Angeles, où au final la commission d'évaluation n'a rencontré que les autorités locales.
Oui, effectivement, parce que le comité d'évaluation est arrivé la veille hein, de la passation de pouvoir. Il y avait un gouvernement en gestation. Ça peut avoir été un handicap, ça, même si le président Macron a, comme vous l'avez dit, a programmé dans son agenda une rencontre avec le CIO.
Non, ça n'a pas vraiment été un handicap dans le sens où quand on voit les déclarations qu'a pu faire Patrick Bowman, le président de la commission d'évaluation, à plusieurs reprises, il s'est dit honoré au nom de la commission d'être reçu par le président au Palais de l'Élysée. Et c'est que même au niveau de cette réception, on a vu les regards des membres de la commission qui étaient particulièrement satisfaits d'être accueillis par le chef de l'État. Et c'est que quand on voit même par la suite, quand on a vu mercredi l'officialisation du gouvernement avec la nomination de Laura Freissel, c'est aussi un gage pour le comité international dans le sens où on a une Olympienne qui a l'un des plus beaux palmarès du sport français, qui est particulièrement engagée dans la société civile, mais qui est particulièrement engagée aussi dans la candidature de Paris, donc elle connaît bien le dossier, et c'est pas négligeable, je pense aussi, que cette nomination soit directement en lien avec, justement, le projet olympique, puisque pendant plusieurs semaines, on a entendu l'idée que le président Macron voulait créer un ministère des Sports et des Jeux Olympiques. Finalement, c'est un ministère des Sports, mais qui est, et là aussi, c'est à noter, qui est un ministère de plein exercice, qu'on n'avait pas connu depuis quelques années. Et donc, avec une sportive, une Olympienne à sa tête, ça va permettre de donner une sorte de garantie au CIO sur le fait que le nouveau gouvernement est pleinement engagé derrière la candidature.
Oui, puis on va rappeler que Anne Hidalgo avait demandé aussi à l'ancien président Nicolas Sarkozy d'être là dimanche soir, et puis donc le président Macron qui a reçu donc les membres du CIO. Ça veut dire que c'est quels que soient les présents qui ont été en exercice, c'est tout un pays qui semble vraiment mobilisé et qui veut ces Jeux.
Voilà, c'est vraiment l'idée qui a été mise en place, c'était de montrer la continuité au niveau du soutien, une continuité qui s'incarne évidemment par le président Nicolas Sarkozy, par le président François Hollande qui a à plusieurs reprises apporté son soutien à la candidature au cours des derniers mois. On l'a vu évidemment lors des Jeux de Rio 2016 où il a fait le déplacement pendant plusieurs jours, où il a participé à la conférence de presse de la candidature de Paris 2024, où il a rencontré à plusieurs reprises, que ce soit à Lausanne, au siège du CIO, que ce soit au Palais de l'Élysée, le président Thomas Bach. Donc c'est qu'il y a cette continuité-là qui se fait, qui permet d'apporter des garanties quant à la gouvernance là pendant la candidature, et surtout si Paris est élue ville organisatrice au moment de la mise en place du projet sur les 7 prochaines années. Donc c'est une manière de donner des gages au CIO, de dire voilà, nous sommes pleinement engagés, faites-nous confiance, on travaillera de concert, on travaillera ensemble, les autorités politiques avec les autorités sportives pour organiser les Jeux. Et là aussi, c'est quelque chose qui est nouveau par rapport à ce que les précédentes candidatures ont pu, françaises du moins, ont pu développer, là où on avait la sphère politique qui était excessivement représentée, et qui au final ne donnait pas forcément les gages de réussite qu'on peut retrouver aujourd'hui.
Alors Kevin, qu'est-ce qui a le plus marqué les membres du CIO lors de leur visite pendant ces 3 jours sur les différents sites ? Il y a des sites qui, plus que d'autres, ont retenu leur attention ?
Alors, vous savez qu'il y a la particularité de Paris, c'est de présenter des sites historiques assez emblématiques. C'est que je pense que l'un des points de vue les plus spectaculaires qui leur a été donné, ça a été une visite des sites depuis la Tour Eiffel, qui a permis de voir justement la compacité du dispositif de Paris 2024 avec la visibilité sur une très grande partie des sites proposés. Après, il y a des sites comme le Grand Palais, comme le Château de Versailles qui ont impressionné aussi les membres de la commission d'évaluation, puisque c'est vrai que ça permet de mettre en avant des sports au sein de lieux emblématiques, de lieux historiques, avec des points de vue assez intéressants, assez exceptionnels. Donc, c'est quand on voit la mobilisation du Grand Palais, du Château de Versailles, de l'Esplanade des Invalides aussi, c'est quelque chose qui est là aussi quelque chose d'assez intéressant, d'assez pertinent pour le CIO, et c'est ce que je pense qui a été le plus marquant pour eux.
En tout cas, ça reste deux très bons dossiers, hein, malgré tout, hein.
Oui, c'est vrai que ce sont deux villes qui ont de l'expérience. Les deux villes ont chacune organisé à deux reprises les Jeux Olympiques. Paris les a eu en 1900-1924, Los Angeles en 1932 et 1984. Après, ce sont deux villes qu'on peut considérer comme des villes-mondes, selon la terminologie qu'on peut employer aujourd'hui. Donc c'est que dans les deux cas, le CIO serait gagnant, en quelque sorte, que ce soit Paris, que ce soit Los Angeles, ça offrirait automatiquement une visibilité exceptionnelle et des gages assez intéressants pour l'institution olympique qui se retrouve aujourd'hui dans une situation assez délicate. Donc c'est que le fait d'avoir deux villes de cette qualité encore en compétition, c'est aussi une manière de donner des gages au CIO et de dire on peut partir sur une organisation fiable, une organisation sûre. Et c'est là aussi pour ça que le CIO souhaite faire ce principe de la double attribution, dans le sens où, en attribuant les Jeux à deux villes de cette qualité, ça va lui permettre de souffler pendant quelques années pour réfléchir à un nouveau modèle de candidature, à un nouveau modèle de soumission de candidature, pour essayer de ne plus se retrouver dans une telle situation avec, au départ, cinq villes candidates et, au final, par rapport à la contestation populaire, par rapport aux critiques politiques également, se retrouver au final avec uniquement deux villes candidates, ce qu'on avait connu pour les Jeux d'hiver 2022, évidemment, mais au niveau des Jeux d'été, c'était une situation inédite depuis les années 80.
Ça prouve aussi que c'est de plus en plus difficile de mettre des Jeux Olympiques sur place, hein, d'organiser des Jeux. Ça coûte très cher et puis très souvent, les villes le payent après, hein, notamment Rio actuellement ou même encore Athènes.
Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est aussi un élément que regarde particulièrement le Comité international olympique depuis, notamment l'adoption de son agenda 2020, avec le principe de la durabilité, de la planification des Jeux, puisque les villes aujourd'hui ne doivent plus uniquement penser aux 15 jours de compétition, donc 15 jours de Jeux olympiques, les 15 jours plus tard de Jeux paralympiques, mais doivent vraiment être dans une idée, dans une approche de durabilité, d'aménagement du territoire sur le long terme. Et c'est qu'à ce niveau-là, Londres est un exemple assez pertinent, puisqu'on voit qu'encore aujourd'hui, les aménagements se font sur le site du parc olympique des Jeux de 2012. Et c'est un aménagement qui dure depuis 2005, qui va durer encore jusqu'en 2025-2030. Et c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment la configuration du site tel qu'il a été pensé en 2005, tel qu'il a été imaginé en 2005, avec la reconversion des différents sites sportifs. Et c'est que c'est un modèle qu'on peut aussi comparer avec les Jeux de Barcelone 92, qui là aussi ont été un exemple au niveau de la planification, au niveau de l'héritage des Jeux. Et à l'inverse, Athènes ou Rio ont des difficultés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas forcément eu une prise en compte élevée, on va dire, de ce principe-là de durabilité. C'est qu'Athènes, c'est un exemple particulier, puisque l'ensemble des sites ont été construits de manière pérenne, alors qu'on savait très bien que certains sports n'étaient pas populaires, n'étaient pas représentés en Grèce et n'avaient pas l'utilité de disposer d'infrastructures pérennes à ce niveau-là. Et c'est que automatiquement, on s'est retrouvé avec des sites qui ont été laissés à l'abandon, qui ont contribué aussi à alourdir l'endettement de la Grèce. Et l'ancien président du CIO l'avait reconnu il y a quelques années en affirmant que 2 à 3 % de la dette grecque était la conséquence de la mauvaise gestion de la période post-olympique. Donc c'est qu'à ce niveau-là, ce sont des leçons qui sont retenues par les différentes villes candidates, qui ont été retenues là dans l'échéance 2024, et c'est que les deux villes encore en lice ont pleinement conscience de ces défis à relever. Alors c'est vrai qu'on se retrouve évidemment avec deux villes qui ont une qualité d'infrastructure, une capacité qui est supérieure à Athènes, qui est supérieure à Rio également, puisque, par exemple, dans le cas de Paris, on est sur 95% de sites existants ou temporaires. Du côté de Los Angeles, c'est 97%. Donc, c'est qu'on est sur un modèle de sécurité qui est relativement élevé.
S'il y avait un petit point faible pour Paris, ce serait lequel, Kevin ?
C'est qu'au niveau du point faible, on peut toujours penser à la place du politique. Et c'est peut-être le risque, justement, une fois l'attribution des Jeux réalisée, de voir le politique se mettre en avant durant les prochaines années et prendre le dessus sur la sphère sportive. Pardon. Donc c'est que ça fait peut-être le risque au niveau de la gouvernance. C'est d'ailleurs pour ça que la candidature a présenté le dispositif qu'elle souhaitait mettre en place en cas de victoire, en affirmant notamment que Tony Estanguet, l'actuel coprésident, deviendrait président de la candidature. Anne Hidalgo, la maire de Paris, serait quant à elle présidente de la société de livraison des équipements olympiques, donc la société chargée de l'aménagement des sites, de la mise en place des Jeux. Donc c'est qu'on est sur une répartition qui est déjà actée bien avant l'attribution des Jeux. Donc c'est là aussi une manière de rassurer le CIO qui connaît évidemment la France, qui connaît Paris et qui connaît les différents aléas que peuvent connaître une organisation dans un pays comme la France.
Parce qu'on sait que c'était un reproche qui avait été fait lors des précédents échecs, que malheureusement le sportif s'était trop effacé derrière le politique.
Voilà, c'est vrai que ce soit pour les trois dernières candidatures d'ailleurs de Paris, quand on voit 1992, quand on voit 2008, quand on voit 2012, à chaque fois on avait en première position le maire de la ville. Le maire de la ville qui est évidemment engagé au quotidien pour la gestion de la ville et qui en même temps devait aussi porter les couleurs de la candidature. Or, en étant président du comité de candidature, en ayant un poste directionnel à ce niveau-là, il faut être engagé à plein temps. Et c'est pour ça, là aussi, que pour 2024, la candidature de Paris a souhaité mettre en avant le mouvement sportif et mettre en retrait, mais en soutien tout de même, la sphère politique. Donc c'est pour ça qu'on voit notamment Anne Hidalgo, mais aussi Valérie Pécresse, la présidente de région, qui sont particulièrement actives au sein de la candidature, qui ont été particulièrement présentes lors de la visite de la commission d'évaluation, mais qui en même temps ne sont pas au premier plan, justement pour ne pas donner l'impression de reproduire les erreurs du passé. C'est pour ça que, à ce niveau-là, c'est, je pense, ce qui fait aussi l'une des forces de la candidature de Paris, c'est le modèle de gouvernance qui a été complètement revu avec, au premier poste, Tony Estanguet, qui est triple champion olympique de canoë, qui est membre du comité international olympique pour la France depuis 2013, et également Bernard Lapassé, qui est ancien président de la Fédération internationale de rugby, et qui, là aussi, c'est quelque chose qu'on oublie assez souvent, mais qui a déjà réussi une campagne olympique, dans le sens où c'est grâce à lui que le rugby à 7 est revenu au programme olympique depuis les Jeux de Rio, et en ayant mené cette campagne, c'est le même principe qu'une campagne pour une ville candidate, c'est-à-dire qu'il faut convaincre un à un les membres électeurs du Comité international olympique. Donc là aussi, c'est une force d'avoir un personnage de cette envergure à ce niveau-là de la candidature.
Il y a aussi un point fort, c'est aussi le Paralympique. Hein, le comité d'organisation Paris 2024 ne veut pas oublier donc les Paralympiques.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que là aussi, c'est quelque chose d'assez important qui a été mentionné durant la visite de la commission d'évaluation, notamment quand on regarde au niveau des transports. Et c'est ce qu'a notamment pu rappeler la région via notamment Pierre-Yves Bournazel, qui est délégué spécial du projet olympique auprès de la présidente de région et qui a évoqué à plusieurs reprises la dimension des transports avec le Grand Paris Express, avec les aménagements, les rénovations actuellement en cours sur les gares, sur les stations de métro et autres de Paris et de la région francilienne, pour montrer justement que les aménagements se font en prenant en compte l'accessibilité, la thématique de l'accessibilité qui a souvent évidemment été abordée par les différentes candidatures, mais qui a souvent aussi été quelque peu oubliée, puisque quand on regarde de toute façon le dossier de candidature des villes candidates, on se rend compte que la place du Paralympique occupe une petite portion du dossier en question, du dossier technique. Donc c'est aussi l'idée de la candidature de Paris de développer cette thématique sur d'autres critères et notamment sur cet aspect des transports avec, on le sait, un maillage territorial qui est particulièrement important, qui est aussi l'une des forces de la candidature de Paris, mais qui en même temps présente des contraintes quant à l'accessibilité. Et c'est aussi pour ça que le comité de candidature a souhaité insister sur cet aspect-là, des nouveaux aménagements, des aménagements dans le cadre du Grand Paris Express qui permettront d'avoir une totale accessibilité.
Pour finir, Kevin, quel est votre rôle, vous, au sein de votre société, Sport Société, quel est votre rôle auprès du CIO et auprès de CGO? Vous êtes consultant, hein?
Alors, je suis consultant, mais je ne travaille pas directement sur l'échéance 2024. C'est que j'ai plus un rôle actuellement d'observateur, et au travers de mon site internet, ça me permet de créer des comptes rendus, de créer des éléments de visibilité par rapport à ce qui se fait au cours de la visite de la commission d'évaluation, ce qui a pu se faire aussi lors de la convention Sport Accord. Ça me permet de relater les différents échanges qui peuvent être réalisés et d'apporter quelques éléments critiques sur la pertinence des deux projets, là par exemple pour 2024, mais je le fais également pour 2022, pour les Jeux de 2020 également. Je commence déjà à le faire pour les Jeux de 2026 avec déjà plusieurs articles en conséquence sur l'idée de candidature pour 2026, que ce soit la Suisse, que ce soit le Canada par exemple. Donc voilà, je suis plus sur un rôle d'observateur du mouvement olympique, de ses évolutions au travers aussi de l'agenda 2020 qui est une nouveauté, et ça permet aussi de vulgariser en quelque sorte le langage olympique qui n'est pas forcément accessible à tous, dans le sens où on est sur un univers bien particulier, on est sur un monde bien particulier avec des modalités, avec des contraintes, un mode de gouvernance qui est bien particulier, qui est propre au CIO.
Très bien, bah écoutez, merci Kevin, on prendra l'habitude de vous rappeler, hein, pour tenir compte un peu de l'actu olympique, et puis on se verra le 13 septembre à Lima, ok?
Très bien.
Merci en tout cas beaucoup, hein, pour votre énorme disponibilité. À très bientôt. Merci Kevin. Voilà. Allez, une page de pub et ensuite on va conclure avec Arnaud sur les différents sites qui vont être proposés à l'occasion de ces JO 2024.
À Rambouillet, 14 rue Chal, et c'est ma fenêtre, votre spécialiste ISO France vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres, stores, volets, portes d'entrée et portes de garage, sur mesure, en PVC, bois, alu et mixte. Et c'est ma fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste et c'est ma fenêtre, 14 rue Chal, à Rambouillet, au 01 30 88 62 32. En centre-ville à Rambouillet, 95 rue du Général de Gaulle, votre traiteur traditionnel au carré d'or et son chef, un restaurateur de la région, vous propose ses entrées et ses plats garnis cuisinés à emporter à 9,60€ sur plats décorés et bouquetières de légumes et ses plats prêts à mettre au four à 12,50€ sur commande. Le carré d'or, c'est aussi son foie gras de canard maison, son saumon d'Écosse label rouge fumé, ses bouchées à la reine à l'ancienne, ses noix de Saint-Jacques au champagne et ses desserts maison. Alors pour vos repas de famille, vos baptêmes, communions, fiançailles, anniversaire et repas de mariage, entre amis ou en entreprise, le Carré d'Or, 95 rue du Général de Gaulle à Rambouillet, 01 34 57 34 40 et sur www.carré-d'or-traiteur.fr. Fermez le lundi. Pour votre santé, bougez plus.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Alors Arnaud, pour compléter ce qu'a dit le dissert Kevin Bernardi, où se dérouleront les principales épreuves de ces Jeux 2024? Les Yvelines, notre département, sera très investi.
Alors nous, les Yvelines seront très investis, on va y venir. Alors tout d'abord, il faut parler bien évidemment de Paris qui nous réserve des lieux emblématiques. Bien évidemment, le Palais Omnisport de Paris-Bercy, aujourd'hui nommé Accor Hotel Arena, faut pas l'oublier, accueillera le basket, le judo, les luttes libres et gréco-romaines. Au Grand Palais, Kevin Bernardi en a parlé, l'escrime et le taekwondo s'y tiendront. Emblématique, on le disait, sur l'esplanade des Invalides, ce sera le tir à l'arc. Au Parc des Princes, autre lieu emblématique de la capitale qu'on n'oublie pas, et on passe le bonjour à Juliette. Il y aura bien évidemment le football et la finale de football. Alors, un stade qui prévoit d'être agrandi à 60 000 places en cas d'obtention des Jeux Olympiques pour Paris. À la porte de Versailles, il y aura donc le handball, sport principal du sport collectif français aujourd'hui peut-être, et le tennis de table, tandis qu'à Roland-Garros, bien évidemment, le tennis. Paris prévoit d'assainir la Seine pour accueillir les courses d'eau libre.
Alors, ouais, j'ai entendu ça, ouais. Ouf.
Ça peut faire sourire, effectivement, quand on voit l'état de la Seine aujourd'hui. Le rugby à 7 se tiendra au stade Jean Bouin, tandis que le beach volley prévoit de construire un stade sur le Champ de Mars devant la Tour Eiffel.
Ouais, superbe.
À quelques mètres, il y aura le triathlon avec une arrivée devant la place du Trocadéro, tandis que la boxe se tiendra sur la Seine. Seine-Saint-Denis, autre département extrêmement représenté, donc bien évidemment avec le Stade de France pour tout ce qui est les cérémonies d'ouverture, de clôture et l'athlétisme. Le site Playel à Lille-Saint-Denis accueillera le village olympique, tandis que tout ce qui est natation synchronisée et plongeon devrait prendre place dans un site qui sera construit et qui est l'un des deux seuls sites à devoir être construit, ça sera Aubervilliers-Saint-Denis. Tandis qu'au Parc des Expos au Bourget, il y aura le badminton, le tir, le volleyball et le village des médias. Et à la piscine de Marville à Saint-Denis, le waterpolo. Dans les Hauts-de-Seine, au stade Yves du Manoir à Colombes, il y aura le hockey sur gazon. Tandis qu'à l'Arena 92, qui ouvrira ses portes dans quelques jours, nous aurons la gymnastique rythmique, le trampoline et l'haltérophilie. En Seine-et-Marne, à la base nautique de Vers-sur-Marne, l'aviron et le canoë-kayak. Tandis que chez nous, dans les Yvelines, alors on est extrêmement bien représentés et c'est une belle promotion pour le département. À la colline des Lancours, le VTT, le Centre National de Golf de Guyancourt, donc pour le golf. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines accueillera, José me fait un signe, le cyclisme sur piste et le BMX. Dans la vallée de Chevreuse, l'arrivée du cyclisme sur route, qui tournera, et donc pardon, avec une arrivée sur les Champs-Élysées, excusez-moi.
Oui.
Dans le château de Versailles, l'équitation et le pentathlon moderne. Et un petit mot pour finir rapidement. Il y a quelques semaines, nos confrères du Parisien annonçaient que Rambouillet et les Brévières se plaçaient pour les Jeux Olympiques 2024. Alors avoir des épreuves, c'est clairement impossible. Par contre, on parle du haras des Brévières ou encore d'une piscine olympique à Rambouillet pour accueillir les entraînements. Et ça, Gaël Barbotin, maire adjoint délégué au sport, en parlait et voulait se mobiliser pour ça.
On en reparlera en tout cas durant ces mois qui vont arriver. Merci messieurs, merci Arnaud, merci donc José. N'oubliez pas le vélo puis les sports équestres. On va remercier aussi Victor ce matin d'avoir été une nouvelle fois aux manettes. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour Tribune Sport. Puis dans 15 jours, le dernier Tribune Foot de la saison. On aura beaucoup de choses à vous raconter. Bon dimanche à toutes et à tous. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale.